Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi.
Commençons par saluer notre fidèle compagnon. Bonjour Ahmed.
Bonjour cher Augustin, bonjour tout le monde.
C'est ça. Alors bonjour à toutes et à tous, aux uns et aux autres fidèles auditrices et auditeurs de Chise 94.3 FM et de Son de Cloche, l'émission préférée de beaucoup ici et à travers le monde pour toutes ses formes d'expression, anodine, remarquable ou extraordinaire, locale ou globale, artistique, scientifique, sociale ou autre, des êtres, des choses, des événements. Nous suggérons de ne pas rester enfermés dans des concepts, des paradigmes ou des idées toutes faites, mais se sentir en tout temps solidaire de tout ce qui concerne notre monde ou nos semblables, ici ou ailleurs, et agir en conséquence sans être limité ou disqualifié pour quelque raison que ce soit. Notre émission donne l'occasion, à tous les points de vue, d'exprimer leur originalité dans le respect de toutes, tous, chacune et chacun. Dans cette célébration du vivre ensemble, nous œuvrons à la concrétisation heureuse du donner et du recevoir au fil des émissions. Je m'appelle Augustin Béchi et vous exprime toute la joie, l'enthousiasme et le plaisir incroyable et agréablement renouvelé de passer les 2 heures qui vont suivre en votre estimable, enrichissante et stimulante compagnie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulier. Mais avant le sujet particulier, rappelons un petit peu l'actualité déstabilisante et lourde de sens que nous allons communiquer avec notre co-animateur Ahmed. En Israël, il y a la guerre qui plane.
Oui.
Et il y a aussi un procès qui plane sur la tête du Premier ministre.
Ben c'est pour ça qu'il fait la guerre.
Moi, je croyais que c'était deux sujets séparés. Mais si tu dis que c'est à cause de ça qu'il fait la guerre, peut-être pour sauver sa peau.
Oui, bah, écoutez, on a parlé de ça. La politique, la guerre, l'économie, faire peur aux gens, gouverner, avoir le pouvoir, tout est relié ensemble, mon cher.
Bon, alors, est-ce que le radicalisme du gouvernement israélien se justifie par le fait que son premier ministre a l'impression que s'il est moins radical, c'est lui qui risque d'écoper?
Il va écoper de toutes les façons. D'après tout ce qui s'est passé, dans 6 mois, il va écoper. Mais le gouvernement israélien, c'est un gouvernement d'extrême droite. Ils ont dépassé toutes les lignes rouges qui existaient. Et je crois qu'après, j'espère un 6 jours que cette guerre finira, après ça, il y aura un nouvel ordre mondial par rapport au deux poids, deux mesures.
Bon, maintenant, on ne va pas épuiser ce sujet-là aujourd'hui. Le cas de Donald Trump aux États-Unis, est-ce que ça se justifie en même temps les casseroles qu'il traîne et ses succès électoraux? Est-ce qu'il y a un lien?
S'il y a quelque chose de plus grand que les casseroles, ça sera ça que Trump traîne derrière lui. C'est un phénomène, vraiment, le phénomène social de Trump et le phénomène électoral de Trump, il devrait avoir des études derrière tout ça, ce phénomène-là, sa montée, pourquoi il est encore là. Et il peut être le premier président des States où il peut être condamné et être président. C'est tellement ambigu, en fait. Son ascension, il est là, il est seul comme candidat, bon, avec bien sûr Biden, et dans les sondages, il est favori.
C'est ça.
Et
D'abord, comment a-t-il fait pour être le candidat des Républicains, malgré...
Il a écrasé tous les autres, tout simplement. Il est un homme de show. Trump, si on n'a pas oublié, si on se souvient bien, il avait son propre émission. C'est un homme des projecteurs. Il ne peut pas vivre à l'ombre.
Est-ce que cela signifie que toi et moi, nous avons une chance un jour?
Nous deux. On doit avoir les milliards de Trump déjà. Avoir toute une équipe. Avoir... Bah, écoutez, Trump, pourquoi il est un électron libre par rapport à tout ce qui se passe? Il a du financement. Déjà. Il peut lui-même financer sa campagne.
Mais on dit qu'il a tripatouillé dans ses comptes, qu'il a fait des choses pas correctes.
Bah écoutez, à ce niveau-là, oui. Et bien, il traîne des chaudrons gros comme le monde derrière lui, et chaque fois, un chaudron explose là, avec des histoires de pots de vin, des histoires de pots de vin pour acheter un silence d'une actrice. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, si on remue l'histoire de Trump, il y aura toujours quelque chose, mais cet homme-là gouvernait le monde pendant une période. Il ne faut pas oublier.
C'est ça.
Et il dit toujours, et là c'est quoi son... Là il a plusieurs axes où il peut jouer. Primo, la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Oui.
Il a dit que si j'étais là, il n'y aura pas de guerre. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, il a dit que si j'étais là, il faut bien se souvenir, les traités d'Abraham étaient lancés par l'administration Trump.
Ok.
Tout ce qui est normalisation avec Israël et les États arabes. Et avec ça, il est un homme de com. C'est-à-dire son équipe utilise toutes les bavures de Joe Biden en public pour les accentuer sur tous les réseaux sociaux.
Mais entre nous, est-ce que Joe Biden est vraiment un si mauvais président en dehors de ses problèmes de santé?
Qu'est-ce que tu as laissé alors? Tu crois un président d'un État comme les États-Unis qui gouverne le monde? Il doit être en ses facultés physiques et mentales, toutes ses facultés.
Oui. Hein.
Parce que, écoutez, je comprends bien qu'un président ne gouverne pas seul, il a une équipe, une administration.
C'est ça.
D'accord. Mais qui signe il donne son accord final, oui ou non? Le oui ou non tranchant, tu vois ce que je veux dire? C'est le président. Qui donne un oui pour une guerre et un non pour une guerre? C'est aussi complexe que ça. C'est pas un seul homme, mais il détient tout en même temps.
Est-ce que nous devons donc, à la lumière de ce qui se passe aux États-Unis, estimer que la Russie est bien gouvernée parce que son président peut souvent se mettre de torse nu?
C'est pas une question de torse nu et monter sur des tigres et des chevaux. Là.
Exactement.
Non, pas du tout. Là. Je crois que... Moi, je comprends pas, par exemple, aux États-Unis, pourquoi il n'y a pas un président jeune. Il y avait Obama, qui était jeune, mais après, les États-Unis a beaucoup de jeunes qui déjà sont un petit peu loin de la politique qui exerce la Maison Blanche maintenant, mais la machine doit donner d'autres jeunes à part Obama.
Mais il y a eu des jeunes, même au Parti républicain, qui se sont présentés aux primaires et qui ont été rapidement éliminés.
Oui.
On parle de M. Cruz, je crois, entre autres. Et puis même, il paraît que Mme Haley, la dernière à suspendre sa campagne, est quand même de loin beaucoup plus jeune que Donald Trump.
Oui.
Sauf que la base a choisi...
Je comprends. La base. Mais qui fait bouger la base? C'est ça. Il y a des machines, ce qu'on appelle des algorithmes électoraux qui font bouger ça. Il y a des contacts, il y a ce qu'on appelle un réseautage énorme qui fait bouger les électeurs.
Dis-moi un peu, c'est quoi ce miracle qui fait que des jeunes votent pour des vieux, des pauvres votent pour des riches?
Ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. le speech politique, la parole politique maintenant, elle touche l'âme en fait, elle ne touche pas le cerveau. Elle ne donne pas à réfléchir.
Bon, maintenant, parce qu'on ne va pas régler ces problèmes-là, on les évoque tout simplement. Il y a le président de France, Emmanuel Macron, qui a évoqué la possibilité d'envoyer en Ukraine des soldats au sol.
Écoute, depuis Macron a dit ça, moi je suivais que les actualités en France, qu'est-ce que les politiciens disent, parce que ça me fait des soirées, j'écoutais ça. En fait, ce que tous les politiciens français disent, à part l'administration Macron, bien sûr,
oui.
C'est que Macron essaie d'être un joueur principal sur l'échiquier mondial. Mais il a oublié une grande chose, c'est que les Français ne veulent pas aller en guerre.
Mais connais-tu un pays qui veut y aller parce qu'il y a eu une levée de boucliers de la plupart des alliés, de façon claire, pour dire que il n'était pas d'accord avec le président
Macron.
Oui,
mais parce que il y a pas de sens, il a dit je vais envoyer, entre guillemets, je vais envoyer des troupes au sol contre la Russie, mais une puissance nucléaire va envoyer des troupes contre une puissance nucléaire, mais il n'y a pas de sens. On va directement anéantir toute l'humanité, c'est ça. Et croyez-vous que la Russie, s'il y a une attaque française, par exemple, sur le sol ukrainien, la Russie, est-ce qu'elle, elle-même, croit que l'Ukraine, c'est un sol ukrainien ou c'est un sol russe? Si les Français attaquent par là-bas, pour eux, c'est un sol russophone. Et pour eux, ils vont dire que c'est une attaque directement contre le sol russophone. Et ils vont pas jouer avec ça. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Il y a pas. Pourquoi créer une autre? Pourquoi accentuer la guerre? Pourquoi le va-t-on en guerre ça sur le vieux continent? Personne n'est gagnant. Personne.
Ça, c'est un autre dossier dont nous ne pouvons pas trouver de réponse aujourd'hui, maintenant. À côté de ça, parce qu'on parlait de la Russie, il y a l'Iran qui a fait ses élections dernièrement dans le silence, pratiquement.
Ah bon, il y a des élections en Iran ?
Voilà, il y a eu des élections, dans un relatif silence.
Tout le temps.
Et actuellement, donc, il y a la Russie qui fait aussi ses élections.
Oui.
Dans un relatif...
silence.
Bon, qu'est-ce que tu penses de ces silences-là? Les silences électoraux.
Au cinéma, on dit silence, on tourne.
On tourne.
Ça, c'est silence, on vote.
Bon.
On vote, mais c'est comme on tourne pour le cinéma. C'est un petit peu ça. Bah, qui va gouverner après en Russie?
C'est la même administration qui...
Voilà. Tu sais, ce que après Yeltsin, il y avait... Poutine, n'est-ce pas? À l'époque, on disait le jeune du KGB qui vient pour la Russie, tout ça. Mais il était intelligent, disons ça pour ce monsieur. Après lui, qui était élu? C'était Medvedev.
Oui, à un moment.
Comme président.
Oui.
Et qui était Premier ministre?
Vladimir Poutine.
Après ça, qui était président?
Vladimir Poutine.
Qui était Premier ministre? Medvedev.
Medvedev.
C'est ça. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Il était toujours là. Il a changé, pour respecter un petit peu la loi, changé de chaise, entre chaise de président et Premier ministre, mais c'est le premier acteur et décisionnaire politique en Russie fédérale.
Bon, alors, quand tu décris un peu la Russie comme ça, c'est qu'il y a un respect des lois, un certain respect d'un encadrement légal.
Oui, pas un respect de loi, un respect d'encadrement légal.
Encadrement légal, ouais. OK. Bon, alors là, nous tombons dans le désordre haïtien.
Juste pour l'Iran ?
Oui.
L'Iran, écoutez, c'est un autre problème dans le monde, ce qui se passe en Iran. Parce que le vote, OK, d'accord, c'est vote, mais tu sais, en Iran, il y a deux comités pour gouverner, le haut comité de la révolution. Et ce qu'on appelle le président et le parlement. Ces deux entités-là, il y a une entité qui n'est pas élue, une entité qui est élue, mais ceux qui ne sont pas élus ont le pouvoir...
Sur ceux qui sont élus.
Tout à fait.
Ça, c'est un autre miracle.
Il y a beaucoup de miracles dans le monde, mon cher. Mais ça dépend des miracles. Il y a de bons miracles, il y a moins bons.
Alors là, nous tombons sur Haïti. Haïti... Il y a une bonne frange de la population qui voulait le départ de l'actuel Premier ministre. Mais curieusement, on attend que sa démission soit effective pour passer à autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction là-dedans ?
En Haïti, tout est contradictoire. La montée de la violence, il y a Haïti, dans notre subconscient, c'est les belles plages, c'est le tourisme, c'est la tranquillité, c'est la sécurité. Mais ce qui se passe ces dernières années en Haïti, c'est tellement malheureux. Et c'est tellement contradictoire ce qui se passe. Ben le Premier ministre, en théorie, il est parti.
Ok. Mais
qu'est-ce qu'il veut dire par effective ?
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Il est parti. Je dis non, je veux plus. Il veut plus. Hein, on passe en période transitoire et on va élire un nouvel gouvernement. Mais non. Écoutez, une des solutions pour Haïti, vraiment, c'est déjà de rétablir la sécurité. Et il y a autre chose en Haïti qui est pas, il n'y a pas de sens. Il y aura des policiers qui nient, qui iront à Haïti.
C'est ça.
Mais ils ne parlent pas la langue des Haïtiens.
Non, pas du tout.
Mais comment ils vont faire ? Comment ils vont faire pour renier la paix et respecter la loi ?
Ben, ça s'est souvent passé comme ça, difficilement.
Ils vont parler langue des signes ? Ils vont avoir des interprètes avec eux ?
Ben, c'est comment parce que ces Haïtiens ont déjà connu d'autres groupes, comme les Américains, qui ne parlent pas forcément le créole,
oui.
Les Canadiens, les Népalais qui sont arrivés à un moment...
Oui, mais tu vois le résultat ? C'est
oui.
Ça le résultat qu'on a aujourd'hui.
Bon, c'est ça. C'est pour ça que je parlais d'une actualité pas mal embrouillée et dont nous n'avons pas forcément de vision claire.
C'est ça. Bah, je crois que au moins il y aura une force qui parle créole pour comprendre la culture et les gens comment on parle, pour au moins faire régner un petit peu, reprendre le pays en main, parce que les violences des gangs là-bas, c'est autre chose. Ça a dépassé toutes les limites.
Est-ce que tu penses qu'un jour, assez proche, le gouvernement haïtien pourra effectivement gouverner à Haïti ?
Assez proche, non.
Bon. Écoutons Wyclef Jean, « If I was president ».
Election time is coming. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. If I was president, if I was president, a old man told me, instead of spinning billions on the war, we can use some of that money in the ghetto. I know some so poor, when it rains, that's when they shower, screaming, fight the power. That's when the vulture devoured. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. If I was president, if I was president, if I was president, if I was president, but the radio won't play this, they call it rebel music, how can you refuse it, children of Moses. If I was president, on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. If I was president, I was president. Tell the children the truth, the truth. Christopher Columbus didn't discover America. Tell them the truth, yeah. Tell them about Marcus Garvey. Tell the children the truth, yeah, the truth. Tell them about Martin Luther King. Tell them the truth, the truth. Tell them about JFK. I was president. I was president. I get elected on Friday, assassinated on Saturday,
buried on Sunday. If I was president, if I was president, yeah, that's the truth right there.
Maintenant, parlons un peu de rationalisme, de simplification administrative, avant d'aborder le thème du jour qui est, souvent, selon les termes de Serge Larrivé, « Bienvenue dans l'univers de la stupidité ». Bon, alors commençons doucement. Au Québec, il y a toute la saga derrière l'usine des batteries.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses de, de la gestion de ce dossier-là par et le gouvernement et le peuple?
J'ai un petit peu suivi ça et j'ai d'autres exemples par rapport à ça. Écoute, cette question est très ambiguë, en fait. Mm-hmm. Il y a deux enjeux. Okay. Enjeu environnemental, mm-hmm, et dans, l'enjeu économique et d'employabilité et tout ça. D'accord. Est-ce qu'on peut s'arranger entre les deux? En théorie, oui. Mais dans la pratique, c'est très difficile. Parce que, d'accord, on a besoin d'une nature prospère. On est arrivé à presque un point de non-retour par rapport à la planète et tout ça, mais un projet économique à cette envergure, est-ce que on peut s'en passer? Sachant que la politique de l'État va faire tout ce qui est électrique. Si on continue l'importation de ces grosses batteries-là, on aura toujours un déficit. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. D'accord, on peut dire, non, on ne va pas respecter la nature, ça fait faire ça. Et d'autres parties, non, on aura plus de chômage, il y aura plus de, on sera plus leader industriel et tout ça. D'accord.
La grande discussion, c'est même que on reproche au gouvernement de n'avoir pas pris le temps de prendre les avis du peuple.
Okay.
Les avis autorisés.
Écoute.
Et le gouvernement qui dit que il manquait de temps et il ne fallait pas trop effrayer les investisseurs parce que ces investisseurs seraient allés ailleurs.
Tout à fait. C'est un enjeu aussi.
Voilà.
Mais
et c'est ça que tu es en train de dire, que si on manque cette opportunité-là, ça peut être dommageable.
Très dommageable.
Pour le Québec.
Pour l'économie de Québec.
Pour l'économie, pour... pour beaucoup de choses.
Parce qu'ils peuvent aller dans une autre province, tout simplement.
C'est ça.
Et faire leur business.
Oui.
Mais ma question, est-ce que le gouvernement a enfreint la loi? C'est juste ça, c'est la question. Oui ou non? C'est difficile à dire.
Difficile à dire, oui.
Parce que s'il a enfreint la loi, il y aura des recours toujours aux tribunaux, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Mais si juste il a... entre guillemets, politiquement correct. Il a accéléré les procédures parce qu'à la base, ils prennent beaucoup de temps.
C'est ça.
Bah juste, politiquement correct. Et après, il y aura toujours des élections.
Mais ça signifie aussi quelque part que nous reconnaissons que ces lois ne sont pas toujours pratiques.
Oui, mais il y a des choses que je ne comprends pas pour frais.
Oui.
Dans un chantier, par exemple, on a besoin de minimum 26 autorisation, 26 permis.
Oui.
Mais pourquoi? Pourquoi tout ce tas de papiers et d'autorisations qu'il faut faire?
C'est que les lois correspondent aux préoccupations des communautés à certains moments.
Oui, mais ces moments-là ont changé.
Oui.
N'est-ce pas?
Quand les moments changent, les lois doivent s'ajuster.
Tout à fait.
Par contre, maintenant, entre les deux... il y a toujours quelque chose qui peut se glisser.
Je suis d'accord.
Et nous avons l'impression que c'est le cas pour le dossier des batteries.
J'ai entendu les deux parties.
Mm-hmm.
Et les deux parties ont raison. C'est ça le problème. C'est que les deux ont raison.
Mm-hmm.
La partie qui défend que la population n'est pas... personne n'a demandé à ces populations qu'est-ce que vous en pensez.
C'est ça.
Et l'autre partie dit que soit maintenant, soit jamais.
C'est ça.
Et voilà qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne.
Exactement.
Les deux ont raison. Et c'est nos convictions qui vont soit avec ça, soit avec ça.
C'est ça. Généralement, quand on se présente devant une juridiction, ça peut être une juridiction formelle ou une juridiction informelle. De toute façon, devant une structure qui va nous juger, tout le monde pense avoir raison. Et on s'en remet finalement à la décision de la juridiction.
Oui.
Ici, c'est quoi la juridiction? Si c'est le peuple, peut-être que la décision sera rendue aux prochaines élections.
En théorie, ça. En théorie, c'est ça. Mais est-ce que la question fondamentale, est-ce que les élections se font vraiment la parole du peuple? Ou le vœu du peuple?
Ça, c'est une très bonne question.
Parce que, à la base, je ne parle pas d'ici, mais en général, les partis qui gagnent n'ont pas la majorité des voix. Parce que, je donne l'exemple de la France, par exemple. La dernière élection, il y avait l'administration, le parti au pouvoir du président Macron.
Macron, oui.
Si on calcule ses voix, il n'a pas la majorité, et la majorité, petite majorité, mais c'est en point de vue quantitatif, il est mineur par rapport à tous les autres. C'est-à-dire tous les autres ont plus de voix
que lui. Disons qu'il n'a pas la majorité absolue.
Tout à fait, c'est ça.
Bon, mais au Québec, le parti, la CAQ, a une majorité obèse. Ouais. Et pourtant, ils ont de la difficulté à imposer un dossier comme celui que nous évoquons.
Parce que la société civile est puissante aussi, parce qu'il y a une société civile avertie. Parce que les gens tiennent à leur nature. Ça, de une, de deux. Les dernières élections étaient quand?
Mais je ne me souviens plus.
Il y a quelques années.
Oui, quand même, oui.
Il y a quelques années, d'accord. Et la courbe, elle est descendante ou...
Elle est descendante.
Voilà. T'as eu ta réponse, c'est pour ça. La base électorale qui a voté pour la CAQ, mais elle est en courbe descendante. C'est pour ça qu'il y a des mouvements, pas que ça. Il y a les grèves des syndicats aussi. En fait, on connaît tout le monde le fait domino.
Prenons une petite escale sonore suivie d'une pause publicitaire. Nous revenons sur ces sujets-là pour finir avec celui-là et celui de l'immigration.
OK.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Alors, on parlait à Québec de la gestion du dossier de l'usine de batterie. Bon, toi, tu donnerais raison à quel parti?
À personne. Non, pour Il n'y a pas de gagnant. Pour vrai, il n'y a pas de gagnant. Parce que je crois que c'est deux visions différentes, en fait. Et la société-là, encore, on ne sait pas on va vers où. Quel système ou système économique qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir plus d'investissements industriels dans la province ou, en même temps, qui est très difficile de respecter la nature et solliciter les gens.
Mais le gouvernement dit que dans ce dossier-là, on respecte la réglementation en vigueur.
Ben, c'est un...
la seule entorse, c'était au niveau de la vitesse. Il fallait aller vite.
Ben, au moins une chose qui est allée vite. Pour vrai, là, parce que j'ai suivi un petit peu sur toutes les plateformes de médias par rapport à ce dossier-là, à cette question-là. Et chacun tient sa position par rapport à ça. Mm-hmm. Le gouvernement dit non, c'est correct ce que j'ai fait. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est vraiment que faire des sollicitations. Je n'ai pas parti voir les gens pour demander leurs avis.
C'est ça.
Et je n'ai pas enfreint la loi. Les gens disent non. Oh, vous avez enfreint, tu sais?
Oui, d'ailleurs, régulièrement, même quand on enfreint la loi, on ne le reconnaît pas.
Ben oui.
Il y a d'ailleurs le principe juridique qui veut que nul ne puisse alléguer lui-même de sa propre turpitude.
Tout à fait. Et c'est pour ça, j'allais dire que je crois que si les gens ne croient pas à ça, ben ça sera l'affaire des tribunaux.
Ok.
Mais
pendant ce temps, l'usine est lancée.
Elle est lancée. Ils ne peuvent pas faire marche arrière. Tant que c'est lancé, ils ne peuvent pas s'arrêter là.
Bon. Alors, on parle là d'un dossier qui est lancé. Évoquons un peu le Québec-Ottawa à propos d'immigration. Voilà aussi un dossier assez encadré. Alors, quelle est la marge de manœuvre des leaders politiques dans
très
le dossier.
Délicat, c'est un dossier très délicat. Parce que on s'approche des élections, déjà. Mm-hmm. C'est un dossier, vraiment, c'est un dossier d'un grand enjeu électoral. Et ça ne se traite pas au niveau provincial, que sur le niveau provincial. C'est un dossier fédéral. Parce qu'il y a des ententes entre les pays, déjà. Il y a des ententes entre les pays par rapport aux visas. Je comprends parfaitement l'enjeu qui est au Québec. Le français, l'employabilité, crise de logement, crise de santé, école, tout ça, d'accord. Mais le fondement de la crise en elle-même, elle n'était pas politiquement correcte. Parce que là-bas, c'était tous les migrants. Après, c'était pas ça, c'était les demandeurs d'asile. Déjà, il faut faire une étude pour savoir... C'est quoi? Ça vient d'où? La source de toutes ces crises qui sont là actuellement. Je parle logement, santé et logement, santé, employabilité et déclin du français.
Mais pour moi, la grande question à travers tout ça, c'est le délai.
De le traitement de dossier?
Délai de traitement de dossier, parce que plus ça dure, plus ça coûte, et plus on maîtrise mal les coûts.
Écoute.
Et plus on est inconfortable.
Je t'avais dit, c'est très compliqué. La plupart des gens, d'après ce que j'ai côtoyé, j'ai vu, ne savent pas le parcours des migrants qui viennent ici. Je ne parle pas de demandeurs d'asile ou des réfugiés. Ça, c'est une autre chose. Complètement. Mais des migrants qui viennent ici. Les délais d'attente sont énormes. Et ces délais-là, les délais de traitement, causent
Des préjudices.
Des préjudices financiers à la province, au Québec et au fédéral, les deux. Et il y en a deux politiques. Le problème, c'est qu'il y a maintenant deux politiques d'immigration contradictoires.
Ok.
La politique provinciale et la politique fédérale. Okay. La provinciale va tant vers la limitation des nombres d'arrivées Et la provinciale et la fédérale dit non, on reste sur le même quota.
Alors prenons un peu, posons la question que certains vertueux se posent. Qui dans ces deux parties est contre la vertu?
Définissons déjà.
C'est quoi la vertu?
Il n'y a pas de vertu en politique, mais définissons. C'est les prérogatives de qui? Est-ce que du fédéral ou du provincial?
Ah, d'accord.
C'est qui décide à l'échelle internationale? Je comprends, c'est très compliqué parce que le Québec a un statut très spécial. Mais finalement, qui décide? Si toutes les provinces prennent leurs prérogatives totalement par rapport à la question migratoire, il n'y aura pas besoin du fédéral sur ça.
Ici, nous parlons des difficultés, des défis d'un pays qui fonctionne. Écoutons, comment on l'appelle, Belafonte, dans ses souhaits pour un pays qui ne fonctionne pas, Haïti.
Haïti chérie, says Haiti is my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel where days long ago brave men served this country well. Where sun is bright or even with soft moonlight, a shading tree, Creole maiden for company, a gentle breeze, a warm caress if you please. Work, laughter and play, yes we'll always be this way. Haiti chérie, says Haiti is my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand just how much I miss the gallant citadel where days long ago brave men served this country well. The rising morn, when roads overflow as crowds to iron market go, when the sun is bright or evenings with soft moonlight, a shading tree, Creole maiden for company, a gentle if you please. Work, laughter and play, yes we'll always be this way.
Oui, Belafonte qui espère que les humains serviront cette nation le mieux possible. Mmh. Est-ce que c'est un vœu pieux?
Oui.
Est-ce qu'il a le droit d'avoir ce vœu?
Oui, tout le monde a le droit d'avoir ce vœu, là. Ah oui, même nous.
Ouais, ouais. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, là, on a fini avec notre actualité, mm-hmm. un peu lourde, et nous abordons maintenant la stupidité. Et parlons comme Serge Larrivé. Bienvenue dans l'univers de la stupidité. L'univers de la stupidité à la portée de tous. Les recherches sur l'intelligence ont montré que le quotient intellectuel, qu'on appelle généralement QI, constitue une bonne mesure des capacités cognitives d'un individu. On a également établi que si, depuis le début du XXe siècle, le QI a progressé dans au moins une trentaine de pays, il a commencé à décliner au milieu des années 1990 dans certains pays. Il ne dit pas lesquels. Comme il n'existe pas de quotient de stupidité, il faut s'en remettre au comportement stupide pour en saisir la teneur et l'ampleur. Alors Serge Larrivé a écrit un ouvrage qui comprend 16 chapitres et c'est ce qui nous inspire aujourd'hui, de longueur inégale, qui devrait permettre au lecteur d'en avoir un aperçu dans plusieurs aspects de la vie, dont le quotidien, les publicités, la politique, l'éducation et même les sciences. Serge Larrivé a fait des études doctorales aux universités de Genève et Lausanne. Il est professeur à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal depuis 1977 et directeur de la revue de psychoéducation depuis 1979. Son champ d'expertise est double. Ses recherches portent principalement sur l'intelligence et sa mesure. Il s'intéresse également à l'éthique, à l'épistémologie et au fonctionnement de la science sous l'angle des fraudes scientifiques et des pseudo-sciences. Ses travaux sur ce sujet lui ont valu le prix sceptique du Québec en 2002. Il a à son actif 400 publications, incluant articles scientifiques, chapitres de livres, livres, recensions d'ouvrages, et 343 communications dans les congrès internationaux, nationaux et locaux, dont plus de 250 sur invitation. Il a en outre reçu le prix d'excellence en enseignement de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal pour l'année 1993-1994 et le prix du mérite du Conseil interprofessionnel du Québec en 2014. Mon cher Ahmed, que penses-tu de la stupidité?
Comme a dit notre cher écrivain, elle est très accessible. Et vraiment, j'ai bien aimé son constat que, après les années 90, il y a un déclin de ce qu'on appelle le quotient intellectuel. C'est totalement vrai. Il y a une chose qu'on trimballe avec nous chaque journée, qu'on la consulte chaque journée, et qu'on pousse avec nos doigts sur son écran. Ça nous rend plus stupides. C'est que je crois que tout le monde a compris.
De quoi tu parles.
Oui.
Albert Einstein, qui a vécu de 1879 à 1955, on lui attribue cette pensée. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Est-ce qu'on peut contester Einstein?
Non. On peut contester Einstein, mais celle-là, non. Je veux dire. On peut contester Einstein, mais pas celle-là. Non, pour vrai, il dit que, bon, ok, l'univers est illimité. Mais il y aura un certain temps que on va découvrir que l'univers s'arrête quelque part. Mais la stupidité humaine, non. Parce que depuis la nuit des temps, on refait les mêmes bavures, la même stupidité tout le temps. Et on la refait. Les acteurs changent, la scène change, mais le théâtre est lui-même.
Une opinion d'un musicien que nous aimons bien, Georges Brassens.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Govrit et Abedel disent « L'esprit critique est une arme face aux fausses évidences, mais à douter de tout, on court le risque de sombrer dans l'ignorance totale.
Bon. »
Parce que la chanson de Brassens tout à l'heure, de tout bord, tout côté, chacun estimait que l'autre était un peu plus con que lui.
C'est ça.
Bon. Maintenant, il y a un penseur qu'on appelle Marmion, qui a dit « Le doute rend fou.
Oui.
La certitude rend con.
Oui. »
Alors, je ne sais pas ce que tu penses de...
Oui, mais... Écoute. La certitude rend con, oui, parce que rien, toute vérité est relative, rien, on y est certain de rien, en fait. On peut mettre tout en... On peut poser toujours des questions, mais ce n'est pas toujours des discussions... Ça ne devrait pas être des discussions byzantines.
Bon. Alors, prenons l'avis un peu de quelques bonnes feuilles de Serge Larrivé, qui dit « Le cerveau humain est prédisposé à accepter d'emblée toute nouvelle proposition comme vraie. » Peu de gens sont en effet portés à d'abord analyser une nouvelle proposition en fonction des données connues et seulement après cette analyse, déterminer si celle-ci est plus probablement vraie ou fausse. Notre cerveau, étant également programmé à donner un sens à l'aléatoire, il est naturel que nous soyons réfractaires à l'incertitude qui accompagne l'inconnu. Et crédule aux explications simplistes et expéditives. De fait, nous sommes exposés à être les victimes de toutes les arnaques et les canulars, les superstitions ou les croyances religieuses infondées et même des publicités stupides.
Il a raison. Au vrai.
Oui, hein.
Oui. C'est ça, mais... si on regarde toutes les arnaques, tout ce qui est, par exemple, publicité mensongère, jusqu'à maintenant, toutes les fraudes qu'on a sur des textos sur nos cellules ou sur nos réseaux sociaux, lorsque tu lis ça, par exemple sur nos mails aussi, bah, c'est tellement... Bah, notre cerveau tend vers ça pour croire ça. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des victimes de ce genre-là de fraude. Et c'est tellement véridique ce qu'il dit. Il fait le constat de la société moderne tout court. Et c'est ça. Et comme il a dit tout à l'heure, l'habitude humaine n'a pas de limite.
Oui. Bon. Écoutons Jacques Brel, Bruxelles.
Avec des femmes, des messieurs en chibusé sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Y'a c'est mon grand-père, y'a c'est ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Ah, c'était autant Bruxelles rêvait. C'était autant du cinéma muet. C'était autant Bruxelles chantait. C'était autant Bruxelles bruxellait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en quibusaient. Sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Bien fait mon grand père, bien fait ma grande. Elle avait su y faire, elle avait laissé faire. Il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Ah, c'était autant Bruxelles rêvait. C'était autant du cinéma muet. C'était autant Bruxelles chantait. C'était autant Bruxelles bruxellait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en quibusé. Sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Y'a c'est ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Ah, c'était autant où Bruxelles rêvait. C'était autant du cinéma muet. C'était autant où Bruxelles chantait. C'était autant où Bruxelles Bruxelles.
Alors avec Brel, on a eu un aspect de Bruxelles. Et bon, il ne s'est pas caché de certaines aptitudes à la connerie le concernant. Oui. Il remonte même sa généalogie. Il est même fier de ça.
Tant que ça c'est généalogie, oui, il est fier. Tant que c'est ça.
Bon, c'est parce que très souvent, on considère ça comme dévalorisant, la connerie.
Écoute, c'est la connerie, reste simple, c'est pas dévalorisant. Bah, on rit de ça. Mais lorsqu'elle dépasse les limites acceptables, là, ça vient foutre autre chose dans la vie. Pas que la connerie.
La... Après la... Enfin... Dis, c'est quoi ton idée de dépasser les bornes au niveau de la connerie?
Écoute, dans notre parcours de vie, on est bébé, enfant, adolescent, jeune, adulte, quoi.
Oui.
Et ici, un autre.
Et vieillard.
Et vieillard, puis un bébé aussi, après un vieillard. Genre, on est bébé, on est bébé, mais entre-temps, il y a un âge pour faire toutes les conneries du monde. Et personne ne peut te juger pourquoi tu as fait ça. Parce qu'on on apprend nos conneries, en fait.
Ok.
Mais lorsque. Je crois qu'on dépasse ce stade-là. On essaie de freiner un petit peu sur les conneries, faire un petit peu de. On réfléchit cartésiennement, je veux dire, à ce qu'on veut faire ou ce qu'on va faire.
Bon. Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est que il y a un moment où nous devons être sérieux.
Oui.
Où nous devons donner l'illusion.
D'être sérieux.
D'être sérieux.
Je préfère ça. Donner l'illusion, je préfère ça. Parce qu'être trop sérieux, trop snob, c'est pas vraiment fun.
Bon. Alors, là, tu abordes un autre angle. Mm-hmm. Parce que, de façon objective, est-ce qu'on est sérieux, est-ce qu'on ne l'est pas? Mais maintenant, l'angle que tu abordes, c'est... parfois, le sérieux peut démontrer une espèce de connerie.
Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on est trop carré, trop sérieux, ça frôle aussi avec la connerie. Écoute, je crois qu'il ne faut pas être dans les extrêmes. Je préfère toujours zigzaguer entre le juste milieu, moi. Parce que là, on a en fait la liberté de penser... d'agir, frôler avec la connerie, frôler avec la sagesse un petit peu, si on l'a, bien sûr. Mais être dans les extrêmes trop sérieux ou trop faire de conneries, c'est toujours pas bien.
Garde cette opinion, tu recommences avec ça après la virgule sonore suivie de la pause publicitaire.
Chise 94.3 FM à Québec.
Allô Patrick, comment ça va?
Ben ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que je sais pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, ben je suis ça pour toi. Écoute le monde de Ricassono, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Ben il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux comme la musique anglophone, francophone, autochtone. Il y a même la musique punk et metal.
Ah ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool. Il y a la musique new country, rap, reggaeton, EDM club, sans oublier découvertes internationales ainsi que la réaction forte de la semaine.
Ben là, les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches entre 19h à 20h30 à Chiz 94.3.
C'est un rendez-vous!
On nous cause site.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeosits. Anmukeosits, tous les dimanches à midi sur Chiz 94.3.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Passe d'avant, c'est bien fait! Le tir est là-bas!
Les Remparts de Québec accueillent le Drakkar de Baie-Comeau ce samedi 16 mars à 16h. Rejoignez Rick Loutier sur nos ondes dès 15h45 pour l'avant-match. Remparts Drakkar, samedi à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Alors, on revient à toi, cher Ahmed.
Puis,
alors, on parlait de la connerie.
C'est ça.
Et le sérieux. Le sérieux qui, au début, était anti-connerie et qui peut devenir connerie.
Oui, ça, on abuse trop, ça devient une connerie. Bah, c'est ça. Comme j'avais dit tout à l'heure, j'aime bien zigzaguer entre les deux.
Oui.
Mais pas trop sérieux, pas trop connerie. Parce que si on est trop connerie, on va faire des désastres. Si on est trop sérieux, on va être snob. C'est ça. Je crois que chaque temps a sa propre attitude. Lorsqu'on est à la job, on devrait être sérieux. Mais lorsqu'on a un match de foot, bah on joue. Je veux dire, on n'est pas professionnel. On joue quelque chose qu'on aime bien. On frôle avec la connerie, tu vois.
Est-ce qu'on peut dire que des fois, il faut jouer sérieusement?
Oui. Parfois, oui. Mais pas tout le temps. Moi, écoute, on dit, un proverbe qui dit, genre, je vais traduire ça, que dans les sombres moments, on doit sourire, on doit rire. Si on prend la vie trop au sérieux, ça va nous impacter. Tu vois ce que je veux dire? Les crises, on y prend à la légère. Bah, la légère, c'est pas quand on s'en fout, non. La légère, comme ils viennent, on les décortique et on essaie de trouver des solutions, sérieusement, mais tout en se détacher émotionnellement parce que ça va nous impacter énormément. C'est ça que je voulais dire.
Écoutons, on revient à toi.
Okay.
Parce que
c'est toujours là.
Oui, c'est ça. Mais écoutons Jacques Brel, Les Bourgeois.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova, et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 3 faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant: les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas, et moi... Moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souffre, moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 3 faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant: les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des 3 faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre
de Casanova. Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-cul nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient bête.
Alors, Brel a chanté ici ce que toi, tu expliques.
Oui, oui, mais j'étais un petit peu dans la lune, mais parce que je me disais si cette même chanson était chantée de nos jours,
oui,
elle aurait fait un scandale. Parce que on aurait traité Brel de toutes les insultes du monde. On va lui dire qu'il est marxiste, communiste, socialiste. Bah, tu sais, tout ce jargon de...
Du wokisme.
Ouais, c'est ça, du wokisme. Et ils vont le dire.
Ou les nouvelles accusations sociales.
Tout à fait. Et ça, ce que j'aime bien dans la chanson française, la vraie chanson française, je veux dire, ça.
Okay.
Parce que Primo, ça cultive son auditeur, son auditrice qui écoute ça.
Oui.
Ça nous pousse à poser des questions.
Oui.
Et à ouvrir et dire c'est quoi la bourgeoisie. Pourquoi il les traite de cochons et de quoi il parle. Dans quel contexte il parle. C'est ça. Et la chanson française, elle est basée sur les mots, les paroles qui nous impactent. J'espère que ça viendra à une époque où la chanson française est comme ça. Parce qu'on l'a perdue un petit peu. Mais juste pour définition,
oui.
On continuera
oui.
Dans le marxisme. C'est un petit peu le. J'apprends là, je reprends. C'est quoi la bourgeoisie? La bourgeoisie, c'est. Désigne la classe sociale capitaliste moderne, possédant les moyens de production et en employant le salariat grâce auquel elle tire une plus-value.
Voilà. Bon. De toi à moi, penses-tu que. C'est les enfants, enfin, quand ces gens étaient enfants, ils avaient déjà ces définitions.
Oui.
Oui, hein.
Quand tu es enfant, que c'était enfant.
Oui.
Pas. Enfin, ils ne savent pas ce qu'est la bourgeoisie.
Oh, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que les enfants s'amusent et donc, en s'amusant, ils font des conneries.
Oui.
Bon,
oui.
Maintenant, quand ils ont vieilli. Mmh. Ils sont à la place maintenant de ceux dont ils se moquaient.
Oui.
C'est de eux maintenant qu'on se moque.
Oui.
Je trouve que c'est un bon retour des choses.
Tout à fait, tout à fait. Écoute, chacun de nous a vécu ça. On était enfant, en tout cas pour moi-même. J'étais un petit peu sage. Puis à l'adolescence, j'ai changé de cap.
Je croyais que j'étais le plus sage. Bon,
non, tu es le plus sage. Je peux pas, c'est un stade. Je peux pas prétendre que je peux arriver à ce stade.
Que tu vas, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Mais à l'adolescence, j'ai changé de cap. J'étais un petit peu plus con que la moyenne, disons. Puis, à l'université, j'ai complètement changé de cap. Et cette connerie-là, je l'ai utilisée, quand on dit canaliser sa connerie ou canaliser son énergie en tout ce qui est tout ce qui est culturel, disons. Et là, ces trois phases de ma jeunesse m'ont fait changer vraiment ma vision de la vie, en tout cas. Quand j'étais petit, c'est une chose. Quand j'étais adolescent, je me foutais de tout. Je faisais de tout.
Est-ce que tu penses qu'on peut s'améliorer? Est-ce que tu penses que la connerie est liée à la nature des gens?
Oui, tout à fait. Elle est liée, c'est inséparable.
De la nature des gens?
Oui.
Écoutons Brel, et puis tu vas nous faire des commentaires après.
d'abord. Il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques. Et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre. Des carottes dans les cheveux. Qui a jamais vu un peigne. Qui est méchant comme une teigne. Même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville. Et que c'est pas fini. Qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On trie. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis elle est toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille. On n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on compte. On compte. Et puis, il y a Frida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats, j'ai jamais tué de chat. Ou alors il y a longtemps, bien j'ai oublié, oui sentait pas bon, non frisole pas, frisole pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, monsieur, alors pour un instant, alors moi, je la crois. Pour un instant seulement, monsieur. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur.
faut que je rentre. Chez moi.
Alors, c'est comme tu disais, la chanson française. Nous, les chansonniers, nous considérons, on parle souvent de chansons à texte.
Oui.
Oui, c'est toujours pour amener un message. Bon, au-delà du message de Brel, tu étais en train de nous expliquer que la connerie peut être liée à la personnalité des individus.
Oui.
Est-ce que tu peux un peu élaborer un peu plus avant qu'on passe à une autre chanson?
J'étais avec Brel.
tu étais encore en train de cheminer dans le...
La limite, le Brel, là, il nous parle des luttes des classes sociales. Mais bon. Mais non, pour vrai, la connerie, c'est relié à... C'est relié à nous. On apprend de nos conneries, en fait, Augustin. On peut pas apprendre... d'autres choses. Parce qu'on est petit, on fait ça, on fait que ça. Et on apprend pour avancer dans la vie, on change de cap et on change de vision. Sinon, on peut pas avoir une mise à jour, un update par rapport à ce qu'on vit et à comment on voit les choses. C'est pas d'être vraiment, on dit dans notre bulle.
C'est comme si la connerie collait à la peau de certains individus. Écoutons Georges Brassens, Corne de Rock.
Ok.
Il avait nom Corne de Rock, au gué, au gué, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Au gué, il avait nom Corne de Rock, au gué, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Au gué, en le regardant avec un œil de poète, on aurait pu croire à son frontal de prophète, qu'il avait les grandes eaux de Versailles dans la tête. Corne de Rock, mais que le bon Dieu lui pardonne. Au gué, c'était celle du robinet. Au gué, que le bon Dieu lui pardonne. Au gué, c'était celle du robinet. Au gué, il proclamait à son de trompe à tous les carrefours. Il n'y a que les imbéciles qui sachent bien faire l'amour. La virtuosité, c'est une affaire de balourd. Corne d'Europe, il potassait à la chandelle. Au gué, des traités de maintien sexuel. Au gué, et sur les femmes nues des musées. Au gué, faisait le brouillon de ses baisers. Au gué, petit à petit. Au gué, on a tout su de lui. Au gué, on a su qu'il était enfant de la patrie, qu'il était incapable de risquer sa vie pour cueillir un myosotis à une fille. Corne de Rock, qu'il avait un petit cousin. Au gué, au placé chez les argousins. Au gué, et que les jours de pénurie. Au gué, il prenait ses repas chez lui. Au gué, c'est même en revenant chez cet antipathique qu'il tomba victime d'une indigestion critique et refusa le secours de la thérapeutique. Corne d'Europe, parce que c'était à un Allemand. Au gué, qu'on devait le médicament. Au gué, parce que c'était à un Allemand. Au gué, qu'on devait le médicament. Au gué, il rendit comme il put son âme machinale, et sa vie n'ayant pas été originale, l'État lui fit des funérailles nationales. Corne d'Europe, alors sa veuve en gémissant, au gué, coucha avec son remplaçant. Au gué, alors sa veuve en gémissant, au gué, coucha avec son remplaçant. Au gué.
Alors, c'est ça, voilà quelqu'un qui, Corne de Rock, qui a la connerie collée au corps, selon Brassens. Partageons aussi quelques lignes de notre ami Serge Larrivée. Le meilleur antidote à la stupidité et au mode de pensée qui engendre la déformation des faits est le développement de l'esprit critique et du doute raisonnable, tous deux d'ailleurs propres à la démarche scientifique. Or, l'une des attaques que doivent subir les individus qui en sont les tenants, c'est-à-dire qui questionnent la validité des propos stupides, est de posséder un esprit étriqué, fermé aux idées nouvelles. Premièrement, distinguons l'esprit ouvert de l'esprit troué. Avec l'esprit ouvert, on exerce un minimum de sens critique et on cherche à vérifier le plus objectivement possible la validité de tel ou tel propos. Avec l'esprit troué, pour toutes sortes de raisons non raisonnables, on prête foi au discours du premier gourou venu, pourvu que son discours semble nouveau ou qu'il évoque d'antiques et occultes connaissances récemment retrouvées ou confirmées, ou confirme notre point de vue. Deuxièmement, l'ouverture d'esprit ne peut faire l'économie de ce que Brickman appelle un scepticisme raisonnable et Bunge un scepticisme par étapes, deux types de scepticisme qui équivalent au doute raisonnable inhérent à la démarche scientifique. On parle ici de démarche scientifique.
Oui.
Est-ce que nous pouvons avoir régulièrement une démarche scientifique quand nous prenons nos décisions?
On devrait être habitué à ça, mais non. Nos décisions ne sont pas toujours scientifiques ou cartésiennes ou ce que tu veux. Nos décisions sont dans la plupart appuyées par nos sentiments.
Bon. Est-ce que nous pouvons donc être d'accord avec la sagesse populaire qui dit « à tout péché miséricorde » ?
Un petit peu.
Un petit peu ou...
Un petit peu, pas beaucoup.
Ah là 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 là. Bon. Compte tenu de ça, écoutons de nouveau Brassens, Le Gorille.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie criait t'es perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut mis reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Gare au gorille.
Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre. Lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix. C'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garoguerie. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garoguerie. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garoguerie.
Alors, penses-tu, Ahmed, que nous les humains, nous sommes plus intelligents que les animaux ou que nous sommes moins stupides?
Plutôt, est-ce que les animaux sont intelligents déjà? C'est quoi ce que nous diffère des animaux?
Ça, c'est une bonne remarque parce que selon Brassens, si, de mon point de vue, le gorille ne fait pas preuve de grande intelligence.
Le bonobo ou quel genre de gorille?
Je ne sais pas.
Parce que si c'est le bonobo, je peux comprendre, mais parce que c'est le plus proche de l'être humain, c'est le plus intelligent des gorilles, des gorilles quoi.
Ok.
Mais je crois que, en fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu c'est les fables de La Fontaine en fait. Il parlait de d'aspect humain, mais
sous le couvert des animaux.
Oui. Parce que c'est plus safe, on dit.
Ok, ok. Parce que, bon, là, il a évoqué le juge, à qui on rendait sa pareille, comme l'homme à qui il avait fait couper le cou.
Oui.
Ah.
C'est ça. Mais
bon, et que les femmes, au lieu de rester, après avoir admiré certaines choses. Ne restez pas là pour concrétiser.
Pas qu'elle, c'est ça. Depuis le temps de Brassens, tout a changé. Comme dit notre cher écrivain de la stupidité, après les années 90, tout a changé.
Exact.
Et oui.
Prenons une pause, on revient tout juste après.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Funk Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chérie J'arrive sur zone de Schiste 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h. Sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.
je reviens à toi, Ahmed. Est-ce que il y a des circonstances qui nous rendent stupides?
Oui. Le fait de se fier à nos sentiments parfois, à la colère, prise de décision en colère, les prises de tête, des couleurs. Ouais, c'est comme ça, sans vraiment calculer. Et surtout, c'est avoir, prendre des décisions lorsqu'on est vraiment en colère. Parce que la colère, c'est une folie passagère.
Oui.
C'est ça.
Bon, est-ce que nous pouvons donc éviter d'être stupides?
Non.
Ou bien, est-ce que nous pouvons limiter les dégâts?
Limiter les dégâts, oui. Mais les,
ou
mais...
est-ce que nous devons prier pour ne pas exagérer?
Prier qui?
Je ne sais pas.
Tout à l'heure, il parlait de ça.
Oui.
Mais est-ce que le fait de croire, croire une chose, mais d'être trop sûr d'une chose, avoir vraiment la vérité, qui, toute vérité relative, n'est pas en elle-même une stupidité.
Écoutons de nouveau Brel, et puis tu nous diras ce que tu penses de son point de vue.
Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable. Puis les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons, j'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures, moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous ai apporté des bonbons. Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras, les gens me regardent de travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. Je vous ai apporté des bonbons. Oh oui, Germaine est moins bien que vous. Oh oui, Germaine, elle est moins belle. C'est vrai que Germaine a des cheveux roux. C'est vrai que Germaine, elle est cruelle. Ça, vous avez 1000 fois raison. Je vous ai apporté des bonbons. Et nous voilà sur la grande place. Sur le kiosque, on joue Mozart. Mais dites-moi que c'est par hasard qu'il y a là votre ami Léon. Si vous voulez que je cède la place, j'avais apporté de bonbons. Mais bonjour, mademoiselle Germaine, je vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs c'est périssable, plus les bonbons c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouton. Allez, je vous ai apporté des bonbons.
Alors, voilà quelqu'un qui a l'air totalement stupide, mm-hmm. mais de bonne foi.
Oui.
Je ne sais pas.
On peut être stupide de bonne foi aussi.
Oui, hein.
Tant qu'il y a des bonbons.
Bon, manifestement, les bonbons n'étaient pas, dans la circonstance, les bienvenus. Mais comment pouvait-il savoir? Écoutons quelques lignes de notre ami Serge Larrivé. Certains prétendent même avoir des talents pour interpréter des phénomènes mystérieux en se réclamant de l'herméneutique, une approche qui cherche à lire les signes et à en dégager leur valeur symbolique. Cette méthode a bien entendu des limites et le sceptique peut questionner la méthode utilisée pour départager les intuitions rapides des interprétations justes. Ou encore, comment les interprétations divergentes sont écartées, si ce n'est en essayant de voir lesquelles rendent compte du plus grand nombre de faits, offrent le maximum de cohérence, etc. De fait, lorsqu'il y a conflit entre plusieurs interprétations, le sceptique préfère se tourner vers l'observable et le quantitatif, même si la méthode scientifique n'est pas nécessairement intuitive à l'homme. Elle suppose en effet que l'on mette entre parenthèses notre attitude spontanément interprétative ou introspective qui fournit sur nous-mêmes de promptes explications qui paraissent convaincantes sans qu'elles n'aient été testées. Explications favorisées par de nombreux biais cognitifs qui gangrènent notre cerveau. Alors, ici, notre ami, lui, a apporté des bonbons. Mm-hmm. Bon, et compte tenu de son ressenti, à un moment, il avait l'impression qu'il devait céder la place.
Oui.
Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire?
C'est déjà pas mal qu'un être humain cède la place. C'est un exercice difficile. Et bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement d'avoir... de s'éloigner un petit peu de la connerie et essayer de prendre ses bonbons et de prendre cette place.
Écoutons Augustin Becci, mm-hmm. monologue.
Je croyais que vous êtes, tu vas me dire qui parlait de la connerie ici.
Ses humeurs et toujours avec sagesse, comme pour beaucoup de gens, mon esprit parle à mon âme, souvent selon ses humeurs et toujours avec tendresse. C'est seulement que je veux, même si je ne sais pas tout à fait ce que je veux. Moi je vaux,
Je sais que je vaux tellement et beaucoup, même si je ne sais pas tout à fait combien moi je vaux. Il m'arrive de chanter sur la route de ma vie, quand je n'ai pas trop de peine, ou si j'ai le cœur content. Il m'arrive de chanter sur la route de ma vie, quand je n'ai pas trop de peine, ou si j'ai le cœur content. Font la paix, je veux célébrer en chantant. Et lorsqu'ils font l'amour, je veux faire ma part moi aussi. Quand les gens font la paix, je veux célébrer en chanson. Et lorsqu'ils font l'amour, je veux faire ma part moi aussi. Dans lequel on vit tous les jours est un tout qui se tient. Toutes les choses qui existent dépendent les unes des autres. Le monde dans lequel on vit tous les jours est un tout qui se tient. Chaque chose qui existe dépend en fait d'une autre. Quand j'ai pris la route du solitaire, je me suis bien trompé, je me suis égaré. Chaque fois que j'ai pris cette route de misère, je me suis bien trompé, coupé du génie humain. Jamais toute une vie sans rencontrer l'amour qui vous arrache la peau pour soigner vos blessures. On ne vit jamais toute une vie sans rencontrer l'amour qui vous arrache votre cœur pour vous donner la vie. L'enfant, il faut le prendre par la main et lui montrer du mieux que l'on peut comment aimer la vie. Pour faire grandir l'enfant, même en nous, il faut le prendre par la main et lui montrer du mieux que l'on peut comment aimer la vie. L'amour de ma vie, c'est à la vie, à l'amour. Il faut rester en vie pour pouvoir aimer quelqu'un. Mon amour de ma vie, c'est à la vie, à l'amour. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Comme pour beaucoup de gens, mon esprit parle à mon âme. Souvent, selon ses humeurs, et toujours avec sagesse.
Les Latins disaient « O tempora, o mores ». Autre temps, autre mœurs.
Oui.
Ici, Augustin Béthi, que je connais quand même.
Un petit peu.
Ouais, je...
Mais c'est ça. On y est.
Il fait l'apologie du monologue. Mm. Et il n'y a pas longtemps, quand quelqu'un parlait tout seul dans la rue, on avait l'impression que soit il était stupide, soit il était en train de virer du mauvais bord. Oui. Mm. Bon, aujourd'hui, de plus en plus, avec les smartphones...
Tout le monde parle seul.
Bon.
Relativement seul, bon. Parfois. Il y a quelqu'un au bout de fil.
Bon, c'est ça, c'est ça.
Mais dans les deux cas, il y a quelqu'un au bout du fil.
Oui, hein. Bon.
Mais nous, on ne le voit pas de toutes les façons. Chacun voit son interlocuteur.
Bon, alors tu abordes là un point excessivement important. Mm. Parce que est-ce que à l'époque où on prenait des gens pour des caves, il n'y avait pas quelqu'un au bout du fil?
Pour eux, oui. Pour eux, il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Bah, sinon, ils parlent à qui? Le fait de parler, il y a pour eux, il y a quelqu'un au bout du fil, comme si ils prenaient leur sel et appelaient quelqu'un. Mm-hmm. Mais c'est dans leur tête, dans leur imaginaire, peut-être.
Il y a même parmi les maladies, on parle de schizophrénie, des gens qui entendent des voix. Bon, il y a même eu une jeune dame vertueuse qui a libéré la France, qui entendait des voix.
La voix de la libération.
Jeanne d'Arc.
Oui.
Oui.
La voix qui l'a guidée.
C'est ça. Mmh. C'est ça.
Écoutez. Il y a une différence entre les voix qu'on entend au fond de nous-mêmes pour avancer dans la vie.
Oui.
Pour avoir le courage qu'on parlait l'autre fois, de se réveiller le matin où il faisait fret.
Exactement.
Pour travailler, oui. pour étudier, pour, je dirais, courir derrière la vie qui nous fuit. Mais aussi, il y a une différence entre ces voix-là qui nous donnent le courage d'être là tous les jours et les autres voix qui nous tirent vers la connerie aussi. Parce que on n'y va pas tout seul vers la connerie. Il y a chacun d'entre nous, il y a un Ahmed entre moi, il y a un Augustin en toi. Ben, en tout cas, toi, il n'y a pas un seul Augustin, je sais. Mais qui nous tire, par exemple, toi, il y a un Augustin chez toi qui te tire vers la parole, vers la chanson, vers tout ce qui est poésie. Et chacun de nous a son petit chez lui à l'intérieur, quoi. C'est ça.
Cela signifie que nous devons pas avoir peur de la vie.
Non, on ne doit pas
parce
avoir peur
de la vie. Parce que les conneries, on en fera.
Tout le temps.
Écoutons Félix Leclerc, moi mes souliers, avant de conclure l'émission.
Okay. Moi mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés, moi, mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, il y a de l'eau, des rochers, la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, paye le bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. Tous les
des souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine. Un jour ces sœurs usées les planchers, peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné.
On attribue à Gandhi cette pensée que la vie est une expérience qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Et avec notre ami Serge Larrivé, mentionnons que opter pour l'observable et le quantitatif se révèle souhaitable pour au moins deux autres raisons. D'une part, dans la mesure où on se retrouve dans l'impossibilité de trancher entre deux interprétations contradictoires. Certains sont enclins à opter pour l'idée des vérités multiples. En d'autres termes, ils se rallient à l'idée que toutes les interprétations se valent, qu'il ne s'agit là que d'une question de perspective. Or, une telle posture constitue un dangereux glissement vers le relativisme. D'autre part, comment établir des relations causales de façon fiable sans faire appel aux méthodes scientifiques usuelles? C'est là une question à laquelle la psychanalyse serait bien malaisée de répondre, puisque, tout en prêchant l'importance de l'intersubjectivité relationnelle, elle truffe son discours d'assertions causales. Telle condition de vie dans la petite enfance donne tel résultat à l'âge adulte ou telle intervention thérapeutique produit tel effet sur la personne en analyse. Or, faire de la science consiste à formuler des hypothèses aussi précises que possible, en déduire des conséquences observables et comparer ces prédictions avec la réalité. Bon, alors est-ce que tu as déjà dit qu'on ne pouvait pas faire de la science tout le temps ou n'importe quand. Mm-hmm. Mais que faire donc pour échapper le plus possible à la stupidité? Si tu avais un mot de fin.
Se cultiver, lire, étudier, avoir de l'expérience sociale, réfléchir, ne pas prendre les décisions hâtives et nous écouter aussi chaque samedi.
tu as tellement raison. Tu as tellement raison. Ouais. Et ouais. Ouais.
Et d'après toi, qu'est-ce que pour être loin de la connerie, comment on peut faire?
De la connerie. Il faut tout simplement vivre. Et finissons l'émission avec la conclusion de Félix Leclerc, qui chante Le petit bonheur.
Que j'avais ramassé, il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: « Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi,
Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes deuils, mes peines, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, mes amis me faisaient des peines. Je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que chifflait ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des filles malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux.
Alors c'est ça, la vie a des hauts et des bas, et nous avons des façons de réagir selon l'expérience qu'on a connue.
Oui.
Je pars avec la conclusion de Félix Leclerc. Il y a un petit bonheur. Bon,
il y a toujours un petit bonheur quelque part.
C'est ça. Alors, je ne sais pas, moi je dis bon samedi.
À samedi prochain. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour être loin de la connerie, il faudra nous écouter chaque samedi de 8 à 10.
C'est ça.